Bienvenue à tous dans cette autre entrevue du podcast Minimaliste de Marisot la Minimaliste. Alors aujourd'hui en entrevue, je vais recevoir Marielle Bureau, qui est en fait vraiment une personne qui coach et qui enseigne la méditation. Donc on va faire un peu le parallèle aussi, c'est drôle, je me rends compte que dans tellement de sphères en fait, il y a des parallèles entre le minimalisme et d'autres sphères comme justement la méditation. Parce que quand je parle de minimalisme, ce que je demande aux gens souvent, c'est de se réancrer dans le présent, de se ramener dans le présent. Et c'est ce qu'on fait exactement aussi avec la méditation. Donc Marielle vient de nous parler de ça et vient nous parler aussi de la notion de vide. Et que souvent, elle est vue d'un côté négatif, mais qu'on peut l'avoir d'un côté beaucoup plus positif. Donc, je vous attends pour ce nouvel épisode du podcast de Marisot, la minimaliste.
C'est le chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisot est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisot vont rendre ta vie plus facile. Marisot, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste.
Alors, bonjour Marielle, je suis bien contente de t'accueillir aujourd'hui pour un de mes épisodes de mon podcast. Donc, je vais te laisser te présenter, puis après ça, on va embarquer sur un sujet assez intéressant qu'on va parler aujourd'hui, qui est un peu la notion du vide, mais comment la démystifier un peu.
Donc, Marielle. Oui, super. Merci beaucoup, Marisot, pour ton invitation. Je suis très excitée d'être avec toi ce matin. Donc, oui, je vais me présenter. Marielle Bureau, mentor en méditation et croissance. Donc, en fait, ce que je fais dans la vie concrètement, c'est que j'accompagne les personnes qui souhaitent apprendre à méditer, à pouvoir pratiquer cette technique-là de façon simple, concrètement applicable à leur vie, puis sans mettre trop de fla-fla à travers tout ça, vraiment garder la base simple pour pouvoir la pratiquer de façon quotidienne sur le long terme. Donc, c'est vraiment là, un peu là, ma mission.
Oui. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs il y a quelques années, là, ça va faire 2-3 ans là, qu'on s'est rencontrés. Puis moi, j'étais justement dans un moment où j'étais dans un tel tourbillon dans ma vie. Et que là, je me disais, ah, il faut que je commence à méditer, mais je ne savais vraiment pas par quel bout de commencer puis comment faire ça. Je me disais, ça se peut pas, moi, mon âme sœur, il tourne tout le temps dans ma tête, je ne serais jamais capable de faire ça. Puis c'est là où j'ai comme simplement par hasard cherché sur Facebook, puis je pense que j'ai vu des publications de toi, puis j'ai fait, OK, elle donne un cours, ça commence là, c'est beau, je m'inscris, j'y vais, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis c'est comme ça que j'ai découvert la méditation, puis que ça a aussi été comme quelque chose que... qui a été des bons changements dans ma vie quand même, là, malgré que, comme je le disais souvent, je ne le pratique pas forcément au quotidien, mais quand même, je me rends compte que j'ai plein de moments méditatifs. C'est ça que justement je trouve intéressant avec toi, parce que tu as cette approche-là qu'il ne faut pas forcément aller s'asseoir pendant une demi-heure quelque part puis faire la grosse méditation. Donc, tu sais, c'est ça, ton approche est vraiment différente.
Oui. Mais en fait, ce que j'aime proposer aux gens, c'est plusieurs techniques différentes, en fait. Donc, tu sais, oui, il va y avoir quand même un volet méditation du souffle qui est comme un entraînement, mais il va y avoir aussi les méditations guidées, les méditations en mouvement, il va y avoir de l'écriture aussi à travers tout ça. Tu sais, il y a comme vraiment plusieurs techniques différentes que je trouve intéressantes que les gens vont pouvoir pratiquer en fonction de leurs besoins du moment aussi. Parce que des fois, c'est pas nécessairement de s'asseoir à méditer que tu as besoin, c'est plus de venir te décharger la charge mentale avec de l'écriture. Donc, oui, effectivement. Puis, dans le fond, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, j'imagine, créer de l'espace, décharger et tout.
Exactement. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve intéressant aussi parce que, tu sais, c'est de trouver chacun, en fait, son moyen de méditer. Tu sais, comme moi, je me souviens des méditations du souffle. Ouf, que je trouvais ça pénible et tout, mais les méditations guidées, j'adore ça. Tu sais, puis là, j'arrive à embarquer et tout. Donc, c'est un peu justement le parallèle quand je faisais avec le minimalisme aussi, c'est que tu sais, c'est vraiment de trouver son équilibre là-dedans, de trouver la méthode qui nous convient, puis de trouver ce qui est vraiment essentiel pour soi, tu sais. Puis oui, aujourd'hui, on va parler de ce fameux vide ou cette peur du vide, parce que souvent les gens, quand ils vont embarquer dans la méditation, ils vont faire ah, « mais moi, penser à rien, puis être dans le vide, je suis pas capable, non, non, non. » Puis moi, souvent, les gens, quand je les rencontre aussi, vont me dire « ah, mais tu sais, mais en fait, ils ne l'expriment pas forcément, mais je sais que souvent, cette peur du vide, parce que quand on fait sortir du stock, qu'on désencombre, oui, tout d'un coup, il y a un moment donné où il y a cette espèce d'espace, en effet, qui se crée, ce vide qui se crée, et ça peut créer une certaine anxiété. Oui, c'est ça. Moi, je veux aujourd'hui qu'on parle plus du vide d'une autre manière, d'une manière positive et de tout ce que ça peut apporter.
Ben oui, clairement. Mais en réalité, moi, souvent, quand on parle de méditation, il y a comme justement cette connotation-là du vide que j'essaie de plus changer pour créer de l'espace, parce que en réalité, c'est pas vraiment du vide que tu fais, c'est que tu crées un espace à l'intérieur de toi où est-ce qu'il va y avoir de l'ouverture, de l'espace pour pouvoir changer tes perceptions, pour pouvoir avoir des postures intérieures différentes. Ben, c'est la même chose aussi avec le minimaliste. T'sais, dans le fond, tu crées de l'espace pour pouvoir justement vibrer différemment à l'intérieur de ta maison, puis te sentir plus libre, fluide dans ton espace, bien, c'est exactement pareil avec la méditation. Tu sais, on ne va pas nécessairement demander aux gens d'arrêter de penser, comme tu ne vas pas demander aux gens de tout vider leur maison de leurs objets. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme d'aller doser tout ça. Puis en même temps, c'est aussi une façon, quand on médite, de juste pas apporter ton attention sur la pensée, la laisser aller, puis juste en faisant ça, c'est là où est-ce qu'on crée de l'espace, parce que dans le fond, ton cerveau, il est engorgé de pensées en tout temps. Tu te parlais du hamster mental tantôt. Le cerveau, tout le monde, il est fait de même. Là. Ton œil, il perçoit quelque chose, puis automatiquement, il y a une information qui se met, puis là, ça arrête.
Ça déboule.
Fait que, tu sais, le nombre de choses que tu vois dans une journée qui te font penser à quelque chose, que tu penses à quelque chose, t'sais, dans le fond, c'est comme si on était en train d'analyser ton cerveau, là, tu serais comme, OK, il est clairement fou, ce cerveau-là. Il y a plein de choses qui n'ont pas de lien entre elles. Puis, tu sais, dans le fond, ce que je veux que les gens apprennent à faire avec la méditation, c'est que tu n'es pas obligé d'apporter ton attention à chacune de ces pensées-là. Tu sais, des pensées là, qui ne sont pas nourrissantes, des pensées qui ne servent à rien, entre guillemets, qui sont comme juste grugeantes, bien, laisse-les aller. Comme ça, au lieu que la pensée génère une émotion qui va générer après ça ton mood du moment,
exact.
Ben, fais juste dire, OK, cette pensée-là, je choisis consciemment de la laisser me submerger. Fait que c'est un peu ça, en fait, la méditation.
Oui, puis c'est drôle parce que vraiment, le parallèle est vraiment parfait parce que dans le mode de vie minimaliste ou le processus de désencombrement, c'est la même chose. Là, c'est de se dire, bon, mais OK, qu'est-ce qui est autour de moi qui me gruge de l'énergie, qui m'amène à un mauvais mood, qui n'est pas intéressant, qui ne m'apporte rien de positif, bien, je l'enlève. Puis, tu sais, c'est la même chose, toi, dans la méditation avec les pensées. C'est que tout ce qui est comme négatif, qui ne m'apporte rien ou qui me gruge, bien, je décide de ne pas y porter attention. Donc, quand on fait le désencombrement, bien, c'est de dire, bien, je ne veux plus que cet objet-là soit dans mon environnement parce que, justement, il me gruge. Donc,
Mais en même temps, c'est tellement cool parce qu'en fait, il y a des objets, des fois, que tu gardes avec une charge émotionnelle qui, sans que tu t'en rendes compte, là, c'est une lourdeur que tu as à chaque fois que tu le vois parce que ça te rappelle quelque chose. Puis là, tu as des pensées qui embarquent, tu as des émotions qui embarquent. Mais c'est la même chose avec les pensées. Puis il y a des fois où est-ce qu'on est comme attaché de façon inconsciente à des pensées aussi. Tu sais, c'est comme, j'ai tout le temps le même discours, je pense tout le temps à la même affaire, mais on dirait que ça me nourrit des fois dans mon espèce de besoin de genre compassion auprès des autres ou besoin de te faire valider ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est sain pour toi de garder tout ce que tu reçois tout le temps, partout? Puis là, que quand les gens viennent, ils voient que tu as conservé leurs objets, tu sais, excuse-moi.
Non, c'est ça.
C'est-tu vraiment nécessaire?
C'est de nouveau cette espèce de pression puis de choses qu'on ressent, en fait, puis que qui est en fait aussi justement des émotions ou des liens qui sont comme tronqués, tu sais, qui ne sont pas vraiment les vrais liens qu'on veut avoir. Puis oui, on le transpose sur les objets. Puis comme tu dis, toi, ça peut être des pensées, ça peut être des émotions, des affaires là-même. Puis justement, on a ça qui embarque alors que ce n'est pas la réalité. L'objet, en fond, il n'est rien. Puis la pensée aussi, dans le fond, si on décide qu'elle est rien puis qu'on ne la laisse pas nous affecter, bien, c'est ça, on se détache complètement. Puis l'objet, c'est la même chose. Si on décide de dire, bien non, cet objet-là, il ne me rapporte pas d'émotion, je décide de le mettre au neutre. Ouais. Et là, c'est ça qui est important aussi. Puis c'est pour ça qu'il faut se faire ce détachement émotionnel des objets parce que souvent, il y a un lien affectif qui est lié puis qui embarque justement avec les émotions, avec les pensées puis avec tout ça. Donc, c'est ça. Puis ce vide, justement, c'est cette espèce de peur. Puis je sais que souvent, les gens, quand ils font la méditation aussi, moi, la première, quand j'ai commencé la méditation, j'étais là, oh my God, j'arriverai jamais à faire ça, à pas arrêter de penser, puis ta. Puis quand tu nous l'enseignes, on comprend très rapidement, en fait, que c'est pas ça. C'est juste de, justement, lâcher prise sur ces pensées qui arrivent au lieu de leur porter de l'attention, de se dire, ah, ben oui, je me concentre dessus, puis c'est de faire, ben non, elle est là, mais ça m'intéresse pas, c'est pas présent, c'est pas nécessaire en ce moment, donc j'y pense pas. Donc, c'est vraiment ça, puis c'est vraiment ce parallèle-là avec les objets aussi, c'est de pas mettre le focus sur ces choses qui, en fait, n'ont plus d'importance, puis de les laisser partir, de lâcher prise, puis de les laisser aller, là. Puis c'est pour ça que j'aime que tu dis que c'est pas du vide, parce que le vide fait peur, en effet, puis il est souvent vu négatif, puis il est souvent aussi lié, ça, je l'avais vu avec une fille à qui j'avais parlé, qui est psychologue, puis qui est comme plus sur le deuil, le vide est souvent synonyme de mort, de quelque chose de négatif, parce que justement, une personne qui nous manque parce qu'elle est décédée, il y a un vide qui est créé. Puis ce vide vient souvent nous chercher sur cette peur-là. Mais toi, dans le fond, tu parles vraiment de créer de l'espace. Puis ça, justement, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va complètement à l'opposé. On va dans le positif.
Exactement. Puis, tu sais, il y a la notion aussi, quand on parlait tantôt des objets, tu sais, quand on regardait les objets qu'on garde par nostalgie aussi, tu sais, les objets qu'on garde en se référant au passé, qui font comme, tu sais, genre, je suis rendue, mettons, je sais pas, à 40, 50 ans, je regarde des objets que j'ai gardés de mes enfants, tu sais. C'est pareil comme avec les pensées. Tu sais, quand on se rattache tout le temps au passé, ça nous empêche de créer de l'espace pour qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le présent comme nouvelle perception ou comme nouvelle énergie, tout simplement. Fait que, tu sais, les souvenirs que tu gardes, c'est un peu comme des pensées du passé que tu as cristallisées dans du matériel, tu sais. Puis, dans le fond, juste de les laisser aller, ça va juste créer de l'espace à l'intérieur de toi pour autre chose, des souvenirs présents qui sont vraiment, c'est ceux qui sont le plus important en réalité, parce que, tu sais, je veux dire, en vieillissant, si tu accumules juste des objets du passé puis qu'après ça, tu en reçois d'autres aujourd'hui, comment tu fais pour comme vivre dans ta vie? Tu sais, c'est ça qu'on arrive avec une espèce d'accumulation. Puis je pense que c'est aussi une question de... Ça se peut-tu de génération? Tu sais, il y avait comme la génération qui est comme plus des années, je pense, 50-60, que quand, aujourd'hui, ils accumulent plus que nous parce que c'est plus dans leur valeur peut-être ou dans leur croyance.
Parce qu'ils se sont en effet valorisés par leur pouvoir d'achat puis par leur possession. Donc, c'était d'avoir la grosse maison, d'avoir justement les plein d'objets, d'avoir pu acheter les gadgets, d'avoir pu acheter les affaires tendances. C'était preuve qu'ils avaient réussi dans la vie. Donc, c'est sûr qu'ils ont accumulé beaucoup plus. Puis eux autres, quand tu veux leur enlever leurs objets, tu leur enlèves leur vie parce qu'ils ont vraiment, vraiment fait ce lien-là que leur possession, c'est leur réussite. Donc, c'est comme si tu leur enlevais tout ce qu'ils avaient réussi à accomplir dans leur vie. Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'en effet, nous, nos générations en ce moment, tu sais, on revient beaucoup plus à se recentrer. Tu sais, je veux dire, le yoga, la méditation sont quand même des choses qui sont devenues beaucoup plus populaires depuis quelques années. Tu sais, le fait de vouloir ralentir, de, tu sais, justement, de décrocher, de lâcher prise. On est dans tout cet engrenage, mais qui est un engrenage positif, là, vers quelque chose, justement, d'une valorisation aussi de la vie qui est différente, tu sais, qui est plus dans la performance, il faut aller vite, il faut en faire plus, il faut faire plus grand, tu sais. Puis je pense que, tu sais, toi aussi, c'est dans la méditation, c'est un peu l'inverse aussi. C'est de dire, tu sais, tu n'as pas besoin de tout, puis de s'étourdir de 25 000 affaires.
Oui, exact. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même du travail à faire par rapport... tu sais, souvent, on sans nécessairement accumuler des objets, on va aussi des fois accorder de l'importance à tout ce qui est plus luxueux, tu sais, au niveau de... T'sais, dans le fond, ça, c'est plus cher, donc ça vaut plus, donc ça a plus de valeur pour moi aussi au niveau émotionnel. Et quand tu reviens à la base, un objet matériel qui vaille 1 000 $ ou qui en vaille 100, t'sais, c'est comme, c'est du matériel, t'sais, c'est vide un peu, là, t'sais, c'est pas ça qui va te remplir de bonheur non plus. Là.
Non.
Fait que quand tu reviens à la base, tu fais comme, si je suis ici dans une pièce vide, qu'est-ce que moi je m'accorde comme valeur? T'sais, est-ce que tout ça autour de moi, c'est ce qui me définit ou je suis capable comme personne de juste être bien avec moi-même sans avoir tout ça autour de moi?
Exactement. Puis je pense qu'à ce niveau-là aussi, justement, la méditation aide beaucoup. Tu sais, t'es intervenu aussi dans mon programme Ma maison, mon repère. On a travaillé des méditations ensemble parce que justement, c'est de se recentrer parce que souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. On ne sait pas qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Puis comme tu dis, là, si on se retrouvait dans une pièce vide, qu'on pouvait recommencer un canevas qui est complètement vierge, puis qu'on dit « OK, je recommence à zéro, c'est quoi que je voudrais vraiment avoir autour de moi? » Parce que souvent, c'est la vie qui nous l'amène, puis pareil dans les pensées, pareil dans les ancrages qu'on a ou les peurs qu'on peut avoir ou comme tu dis, les pensées récurrentes qui viennent tout le temps puis qui nous mettent dans un certain mood, bien, c'est parce que justement, tu sais, elles sont venues à un moment donné, puis elles sont restées, puis tout ça, puis que si on pouvait mettre ça tout à neutre puis de recommencer à zéro, c'est sûr qu'on ne les voudrait pas, tu sais, qu'on les flusherait. Donc, tu sais, c'est vraiment de se dire hey, qu'est-ce que je veux, puis c'est de se ramener dans le présent. Donc, je trouve que le parallèle toujours est vraiment intéressant, puis que la méditation aide à ça, ou en tout cas les moments où on prend un peu de temps de recul, je dirais, tu sais, pour juste analyser la situation ou juste la ressentir, se dire comment. Parce que nous, je sais, ça, c'était quelque chose qu'on avait vraiment fait beaucoup quand on a commencé le cours avec toi. C'était vraiment d'être dans le ressenti. Puis moi, j'étais jamais dans le ressenti. J'étais tout le temps dans ma tête, dans l'analyse, dans la compréhension très cartésienne et tout. Alors, j'ai un côté quand même ésotérique que j'aime ça, mais que, tu sais, je le vivais pas, je laissais pas cette ouverture à ça. Puis quand tu nous l'as enseigné, j'étais beaucoup plus à ressentir. Puis c'est ça, c'est drôle, c'est ce que je demande souvent aussi à faire aux gens, à dire, mais tu ressens quoi quand tu es chez toi? T'es-tu bien? T'es-tu pas bien? T'es-tu sens-tu décalé? T'es-tu sens-tu déprimé? Puis c'est ça, c'est de vraiment essayer d'être beaucoup plus dans le ressenti puis de se réancrer dans le présent. Je pense que la méditation, à la base, c'est beaucoup plus ça, si je ne me trompe pas, c'est de s'ancrer dans le présent.
Exactement. Mais en réalité, c'est porter une attention attentive à tout ce qui se passe dans l'instant présent sans justement être dans le passé ou dans le futur. Fait qu'est-ce qui est là en dedans de toi, là, ici et maintenant? Quand tu rentres chez vous le soir, si tu arrives et tu sens comme une vague de genre « Wow, t'as-tu vu? » Tu sais, genre, il y a t'sais, en plus, il y a tellement de ménage à faire quand tu as plein d'affaires. Là. C'est comme tu finis plus jamais de nettoyer tout le temps. Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, chez moi, c'est très minimaliste dans le sens où je suis très épurée dans mon espace. Puis, dès que je sens qu'il y a comme trop de choses, ça affecte tout de suite. Genre, je me sens comme plus lourde. Je suis comme, OK, je vais faire un ménage. Puis, à chaque fois que je désencombre, je suis comme, ouf! Puis, je le sens tout de suite, l'espèce de relâchement de faire comme, OK. C'était juste ça là, qu'il fallait que je fasse. C'est comme si ça habite ton mental tout le temps là, de voir ton environnement encombré. Ouais. Ça occupe ton esprit. Puis on dirait que ça te met une lourdeur qui n'est pas nécessaire non plus. Là.
Non, exactement. Puis c'est vrai. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi parce que souvent, les gens dissocient. T'sais, ils vont faire comme « Ah oui, mais tu sais, ils vont s'occuper de leur santé mentale, ils vont s'occuper de leur santé physique, ils vont aller faire du sport, ils vont aller faire de la méditation, du yoga. » C'est plein de choses comme ça. Mais après ça, ils rentrent dans un environnement à la maison qui est surencombré, qui est hyper lourd, qui leur tire de l'énergie. Donc, un peu tout ce qu'ils ont fait à l'extérieur, mais quand ils arrivent à la maison, ça le remet à zéro, ça annule tous les bienfaits parce que justement, leur environnement ne correspond pas à ça. Puis ça revient toujours à la phrase que je dis aussi, c'est un esprit sain dans un corps sain, mais dans un environnement sain aussi. C'est un tout, tu ne peux pas dissocier ça parce que je pense que sérieusement, notre environnement physique est quand même une extension de comment on est dans notre tête. Donc, si c'est complètement lourd autour de nous, ça ne peut pas être très léger dans la tête.
Mais qu'est-ce qui explique justement, selon toi, le fait que tu peux prendre soin de ton mental en méditant, prendre soin de ton corps, de ton alimentation, de plein de choses dans ta vie, mais que tu arrives dans ton environnement puis c'est comme si ça, c'était pas important, que tu laisses ça comme à la dérive.
Je pense que c'est beaucoup... La pression extérieure, la pression sociale est vraiment la société de consommation dans laquelle on est, qui, dans le fond, elle, on est brainwashed à longueur de journée. Tu sais, à peine on sort de la maison, tu pars en auto, tu écoutes la radio, les panneaux partout, tu sais, que tu aurais besoin de toutes ces affaires-là pour être heureux. Et que dissocier ça, on a tellement comme transformé, en fait, le plaisir, enfin, déformé la notion de plaisir, de bonheur, tu sais, de besoin, de désir. Qu'on ne sait plus trop, tu sais, on nous crée des besoins, mais c'est plus des désirs qu'on nous crée. Puis on pense qu'on s'achète du bonheur en ayant justement la grosse maison, les gros enfants, mais que ce n'est pas ça le bonheur, tu sais. Donc, je pense qu'on a cette espèce d'image déformée, puis que l'extérieur n'arrête pas de nous dire que c'est ça qu'on a de besoin. Et qu'il y a eu quand même aussi au Québec, je pense, tu sais, des affaires très ancrées au niveau de la peur du manque, qui sont ancrés depuis longtemps dans les générations en fait passées, qui ont manqué, puis que ça est encore ancré, tu sais, que ça a été comme passé de génération en génération, puis c'est encore des concepts qu'on a encore dans notre esprit, puis qu'on a de la misère à s'en détacher, là, tu sais. Donc, je pense que c'est ça. Et souvent, les gens me disent, tu sais, c'est juste du ménage, tu sais, c'est juste du ménage, c'est pas grave, tu sais, tout, là, puis... Non, tu sais, parce que justement, je pense qu'on a tellement dissocié notre environnement par rapport à notre bien-être que c'est comme pas d'importance, alors que oui, ça en a.
Oui,
le conçoive pas, tu sais, c'est vraiment bizarre. Il faut faire cette reconnexion aussi, je pense, avec notre environnement. Tu sais, quand on parle d'environnement, c'est l'environnement, la maison dans laquelle on vit, c'est le travail, mais c'est aussi après la plus grande extension de l'environnement, la planète sur laquelle on vit, tu sais, je veux dire, on est comme déconnecté de la nature, on est déconnecté d'un rythme qui est normal, tu sais, donc je pense que c'est ça qui est un peu difficile un peu dans notre société actuelle, puis je pense que tu dois le voir aussi, toi, les clients qui viennent te voir ou en tout cas qui t'abordent pour que tu les accompagnes, c'est sûrement aussi, c'est un peu ce genre de choses qui doivent ressentir un peu cette dissonance, d'être déconnecté en fait de qui ils sont, de où ils sont rendus. Là.
Mais c'est surtout aussi une espèce de perte de repère, de manque de sens, de besoin de connexion, de besoin de revenir à la base. C'est comme, c'est un peu comme si le tourbillon de la société actuelle, culturelle, est comme tellement fou, tellement dans t'arrêtes jamais, il faut tellement que tu ailles tout le temps plus, que tu ailles plus vite, que tu ailles plus loin, que tu fasses plus. T'sais, c'est comme, on dirait qu'il n'y a jamais une espèce de sentiment de contentement, un sentiment de faire comme, OK, je suis assez tel que je suis dans ma vie actuellement. Puis oui, je peux avoir le besoin d'évoluer encore, mais je peux être bien et contentée comme ça, me sentir bien et sereine, puis pas toujours être dans le besoin d'aller toujours plus. T'sais. Puis c'est drôle parce que tu parlais culturellement tantôt de la peur du manque ici dans la société québécoise. T'sais. Mais ça serait intéressant de voir justement où dans le monde la culture est différente, puis où est-ce que le minimaliste est encore plus bien ancré? Je ne sais pas si tu as ces données-là. Est-ce que tu sais à quelque part dans le monde ou est-ce que c'est comme...
Il n'y a pas beaucoup de statistiques, mais je sais que, par exemple, tu vois, les pays scandinaves vont être beaucoup plus ancrés. Puis c'est drôle pourtant parce que c'est des pays nordiques comme le Québec, tu sais, tout. Mais les pays scandinaves ont beaucoup plus un ancrage. T'sais, on parle du Hedge aussi, du slow living. Ils ont même maintenant beaucoup instauré aussi des semaines de travail où, en fait, les gens travaillent 6 heures par jour, mais sont payés 8, là, mais ils se sont rendus compte que les gens étaient plus performants. Donc, ils sont vraiment restructurés aussi leur manière de voir la société. T'sais, mettons, tu vas travailler à vélo, tu as des bonus financiers. T'sais, on est encouragé. Oui, vraiment. Wow. Là-bas, qui ont décidé que si les employés venaient à travailler à vélo, ben, ils avaient comme des bonus sur leur salaire à chaque journée qu'ils sont venus à vélo. Donc, tu sais, on encourage beaucoup le bien-être au-delà de la performance. Puis je pense que c'est ça aussi.
Hey, c'est donc bien spécial.
Ouais.
Mais excuse-moi, mais c'est juste parce que je me rends compte qu'ici, tu sais, on élargit les autoroutes, on paye des heures supplémentaires, on paye plus cher les gens qui font des heures supplémentaires, comme si on encourageait genre l'inverse complètement. Tu sais, genre, continuez à prendre votre voiture, travaillez plus, brûlez-vous.
Oui, mais c'est vraiment ça. Puis c'est drôle parce que on dirait que tranquillement, on commence à vouloir aller dans l'autre sens, mais comme si notre société ici était encore pas vraiment prête. Mais l'Amérique du Nord, c'est vraiment ça. C'est cette société de performance, de pousser, d'aller jusqu'à la limite. On squeeze les gens comme des citrons, puis après ça, ah, tu sais, tu pars en arrêt de travail parce que tu fais un bon nom, t'es tout, ben ouais, t'étais pas capable, t'es pas fait fort, tu sais. Toute cette notion-là, tu sais, comme voyons, il faut qu'on remette l'humain au lieu du profit, je pense, en avant. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on change parce qu'on était dans cette, justement, depuis l'ère industrielle, dans cette vague de comme toujours de consommer plus, de créer plus, de vendre plus, de, tu sais, de cette expansion qui n'arrête pas. Puis qu'on a perdu, je pense qu'on s'est perdu l'humain là-dedans. Puis quand tu dis, tu sais, que les gens cherchent du sens. Puis c'est ça, c'est que les gens, justement, n'ont plus de sens à leur vie. Tu sais, ils vont travailler comme des fous, des fois, des jobs qu'ils n'aiment pas. Et finalement, tu sais, avec le salaire, ben oui, là, ils se payent des affaires pour se récompenser, pour se faire du bien, pour, tu sais, combler justement cette espèce de frustration et tout. Donc, ah, ben je vais aller magasiner, puis oh, je me suis acheté de quoi avec l'argent que j'ai fait à ma job que j'haïs, tu sais. D'engrenage fou. Puis c'est ça, tu sais, quand tu dis que les gens cherchent du sens à leur vie, mais c'est vraiment ça. Puis tu vois, moi, c'est ça que je prône, c'est d'avoir une vie plus simple, mais remplie de sens grâce à ce qui est juste essentiel. C'est, je pense que c'est ça. Puis tu le dis toi-même aussi dans la méditation, c'est de se ramener à l'essentiel, à ce qui est vraiment aussi l'ancrage d'aujourd'hui, le moment présent, les petites choses, puis d'être dans le contentement, d'accepter. Tu sais, le contentement est souvent vu, je pense, aussi négativement. C'est comme, je me contente de, je pourrais avoir plus, mais je suis comme lazy parce que je ne vais pas chercher plus. Mais c'est en fait, moi, je pense que non, c'est juste plus d'être dans le mot gratitude, je pense, d'accepter, de te dire, waouh, j'ai déjà tout ça, tu sais.
Si on était beaucoup dans l'action, puis dans le faire, puis dans l'accomplissement de justement de l'action, puis quand on s'arrête comme ça pour méditer, les gens parfois ils voient ça comme une perte de temps en se disant mais je fais rien. Mais en réalité, tu fais pas rien. Ce que tu fais, c'est d'apprécier l'instant puis de te connecter justement à ce qui est présent, vraiment présent dans le moment. Puis qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que tu ressens dans toi? Comment tu vibres? C'est quoi qui t'envahit comme émotion, comme ressenti quand tu penses à ta vie? Tu sais, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens vraiment aligné? Tu sais, c'est comme des mises au point quotidiennes quand tu médites, en fait. C'est comme si tu fais comme, je m'arrête ici et maintenant, je fais comme... Je m'arrête là, dans le tourbillon de tout ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est là?
Ouais.
Et je me sens-tu bien? Puis, si je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir bien? Puis, je pense qu'on le fait pas assez, ça, justement, quotidiennement. Puis, c'est ça qui arrive qu'au bout de 10 ans, tu fais comme, OK, ben j'ai perdu 10 ans de ma vie à faire de quoi que j'aimais pas. Finalement, les gens, ils se sentent complètement perdus. Mais c'est parce qu'il faut le faire quotidiennement, cette mise au point-là.
Ouais.
Ça te permet de te réaligner constamment.
Exact, parce que c'est un processus. On change tout le temps, en fait, et tout. Puis c'est vraiment comme le processus de désencombrement. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain que tu sais que, OK, oui, c'est ça, puis tout. Puis demain, est-ce que ça va être encore ça? Peut-être pas. Donc, tu sais, c'est toujours en constante évolution. Donc, oui, il faut le faire en effet de base quotidienne, idéalement. Tu sais, je dirais.
Ouais.
Moi, je le fais peut-être pas quotidiennement, mais au moins. De manière hebdomadaire, mais en tout cas, de prendre régulièrement des temps d'arrêt.
Ouais.
Puis de se poser la question, puis de justement ce temps de recul. Puis c'est drôle parce que je le fais vraiment, c'est vraiment le même fonctionnement avec mes clients, tu sais, de se dire justement, là, wow, là, tu sais, t'es dans ce tourbillon-là, là, mais toi, aujourd'hui, tu sais, dans aujourd'hui, c'est quoi que tu veux, tu sais, c'est pas justement tes objets du passé ou les okazuka que tu gardes pour le futur parce que t'as pas confiance en qui tu seras demain.
Exact.
C'est-à-dire, aujourd'hui, t'es qui? Puis oui, ces choses-là, mettons, les souvenirs ont fait partie de nous puis font partie de qui tu es maintenant. Mais tu n'es plus la personne du cégep, tu n'es plus la personne de l'université, tu n'es plus la personne de ta première job ou de ta première rencontre ou de ta première relation. Tu es ailleurs. Mm. Donc, c'est comme se ramener à ça puis retrouver justement cette connexion que je pense que justement, on a été tellement déconnectés qu'on a de la misère à même se dire que c'est encore possible. J'ai l'impression, tu sais, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, bien, clairement, écoute, puis tu sais, moi, quand tu parles de processus, quand tu parles de... que c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, mais je trouve que ce que tu fais, toi, quand tu amènes les défis minimalistes, c'est enlever un objet par jour, mais c'est un peu la même chose que je fais, moi, avec la méditation. Souvent, je dis commencer par une minute par jour, deux minutes par jour. Tu y vas progressivement, puis tu crées de l'espace tranquillement, autant avec tes objets qu'autant qu'avec ton observation, ta méditation. Tu viens créer de l'espace de façon progressive qui fait en sorte que, ben, tu sais, tu vois quasiment pas le gros step à la fin. Ben, tu le vois un peu, là, les objets, mais tu sais, c'est comme si c'était plus léger, mettons. Oui. C'est comme tu es plus prête aussi à le faire doucement que des fois quand tu enlèves tout d'un coup. En tout cas, moi, je suis de même, j'enlève tout d'un coup, ça ne me dérange pas, mais il y en a pour qui c'est comme, il faut que tu y ailles, genre, tranquillement. Moi, quand j'arrive, je fais le ménage, j'ai comme, j'ai plus besoin de ça, puis tout.
Ouais.
C'est genre fini dans une boîte. Oui. Mais tu sais, il y en a pour qui c'est plus difficile.
Mais parce que tu l'as déjà fait plusieurs fois aussi, puis tu sais le bienfait que ça t'apporte. Puis souvent, c'est ça aussi, c'est que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, qu'on n'a pas vécu une fois ou deux l'expérience du bienfait que ça fait, c'est dur de l'imaginer. Puis pareil avec la méditation, au début, on ne sait pas. Moi, je me souviens quand j'avais commencé les cours avec toi, je me disais, ouais, va voir, tu sais. Hein? Puis finalement, les premières fois, je suis sortie de chez vous, puis que j'étais zen tout le reste du dimanche, puis que je recommençais, parce que c'était les dimanches matin, puis c'était vraiment un moment sacré pour moi le dimanche matin. Puis ma semaine était complètement différente. Mon lundi aussi était beaucoup moins stressant. Puis je partais comme sur un autre mindset. Puis je me disais, aïe, aïe, oui, tu sais, ça marche. Puis quand tu le vis, tu veux le revivre. Tu sais, c'était comme, oh my God. Puis tu sais, après, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire tout seul comme moi. Je sais que pour la méditation, j'ai envie de faire tout seul. Une chance que tu es là, justement, que tu es dans mes réseaux. À le faire. Mais tu sais, c'est ça, c'est pour ça qu'on est là pour accompagner les gens. Tu sais, on a toutes nos missions de vie, nos missions d'entreprise aussi, mais c'est ça, c'est d'accompagner les gens pour les amener à ça parce que des fois, c'est pas facile d'y aller tout seul. Donc, et on sait pas comment le faire, puis on le fait souvent pas de la bonne manière, puis c'est là où on se décourage, puis on se dit, ah ben non, c'est pas fait pour moi la méditation, mettons, mais alors que simplement, on sait pas du tout comment le faire, puis qu'on l'a pas abordé de la bonne manière, tu sais.
Exactement. Bien, d'être accompagné au départ, de toute façon, dans toute nouvelle chose, je pense que c'est la meilleure façon de ne pas se décourager aussi. Là, parce que, tu sais, des fois, quand tu pars d'une maison qui est encombrée jusqu'au-dessus des oreilles, tu sais, comme, ben je commence par quelle pièce, là? Tu sais, c'est comme toutes les pièces sont encombrées. Bien, c'est ça. Quand tu commences à méditer, des fois aussi, tu es comme, comment je fais pour m'asseoir deux minutes alors que j'ai, genre, tellement d'autres choses à faire? Bien, c'est ça.
Ouais.
Tu sais, il faut comme y aller.
Progressivement, c'est ça. Puis de se donner des chances aussi, tu sais, d'être bienveillant. Des fois aussi, si ça ne marche pas du premier coup, là, tu sais, on est comme, ah ben là, ça n'a pas marché, tant pis. Mais c'est d'être persévérant, je pense aussi, puis d'être en bienveillance, puis de se dire, bon, ben OK, j'ai réussi une minute aujourd'hui, j'ai réussi deux minutes demain. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de s'accorder aussi un peu de douceur. Je pense qu'on est toujours aussi très dur avec nous-mêmes.
Tellement.
C'est ça, là, tu sais, que ces moments-là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a tellement de sphères qui viennent, en fait, comme s'imbriquer dans les choses. Tu sais, comme moi, je vis le mode de vie minimaliste, puis c'est ça que j'enseigne, mais tu sais, la méditation, le yoga, il y a plein de choses, dans le fond, qui ont cette philosophie de vie, tu sais, le zéro déchet. Il y a des choses comme ça qui ont toute cette philosophie de vie de justement de se recentrer, puis d'éliminer, dans le fond, simplement ce qui est superflu, que ce soit les pensées, que ce soit les objets, que ce soit le temps qu'on perd, que ce soit le trop d'activité. C'est vraiment d'essayer vraiment de se recentrer. Puis je pense que c'est vraiment la clé pour notre futur aussi, là, pour qu'on sache où est-ce que... On va pas loin, là, mais où est-ce que l'humanité va se rendre, tu sais, parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas. Là. Puis avec ce qu'on a vécu dans les quasiment deux dernières années aussi, on se rend compte là, que tu sais, qu'il y a quand même la société ne va pas bien. Là, tu sais.
Bien, clairement. Puis tu sais, en même temps, je pense que c'est ça, c'est un switch de mentalité complètement qu'il faut faire. Parce que, tu sais, oui, c'est bon de faire du recyclage, de trier les déchets, mais tu es comme en réalité, il faudrait juste diminuer les déchets. Il faudrait pas comme trouver une façon de les récupérer. Il faudrait juste en éliminer. On peut s'arrêter. Puis tu sais, c'est comme tu arrives à l'épicerie puis tu vois des étagères remplies d'affaires. Tu sais, moi, là, quand je rentre à l'épicerie, je capote. Je fais comme ça là. Il n'y a clairement pas autant de gens qui vont acheter ça. Là. Ça va finir où, cette histoire-là? T'sais? Puis tous les emballages avec lesquels ils sont faits, ça a été utilisé pour rien. C'est comme une surconsommation. C'est une société, comme on disait, de peur du manque, d'abondance. Puis c'est comme, il faut tout le temps que les tablettes soient pleines quand tu vas à l'épicerie. Oui. C'est comme s'il n'en reste pas beaucoup. Tu es comme, oh, ça va pas bien. Là.
Il
n'y en
a pas beaucoup. C'est un problème. Il n'y a plus assez d'argent. C'est comme, voyons, ils ont dû manquer d'approvisionnement. Puis t'es, mais non, c'est juste que c'est pas normal, en effet, que toutes les étagères sont toujours pleines. Puis que tu te dis que, je sais pas, moi, dans une épicerie, en une journée, il y a, je sais pas, des centaines de personnes là, qui passent là. Puis que tu vois à n'importe quelle heure, puis les étalages sont pleins. C'est comme
tout le temps.
C'est pareil. Là, c'est
vrai. Puis ils doivent les jeter, là, genre, ils doivent les jeter là, quand c'est pas utilisé.
Oui, oui, oui. T'sais? À la fin des journées, là, les épiceries, c'est fou, là, tout ce qui est en plus avec les dates de péremption et tout, tout part aux déchets. Puis c'est fou, c'est de la perte complète. Là, puis c'est tout un poids sur la société, enfin, sur la société, sur l'environnement aussi et tout, parce que ça a quand même été produit. Donc,
exactement.
Impact, mais c'est toute cette sphère. Puis je pense que tu as raison, c'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut faire en premier, là, de vraiment voir en fait la société d'une manière différente aussi, de se détacher vraiment de toute cette performance, puis de cette productivité, puis de tout ça, parce que c'est pas ça. Tu sais, moi, je le vois récemment, puis c'est drôle chez les jeunes aussi, là, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Tu sais, je ne sais pas toi si tu en as eu plus aussi dans tes réseaux et tout, mais des jeunes, tu sais, qui ont 18 ans, là, puis qui sont complètement perdus, puis qui ont tellement peur de l'avenir, puis qui sont sous cette pression de performance et tout. Puis je trouve ça vraiment fou là, de se dire que crime, nous, on avait cette insouciance quand on était jeunes parce qu'on avait toute la vie devant nous, puis eux autres pensent déjà des fois à 18 ans que crime, ils feront rien de leur vie, puis qu'ils ont cette pression-là que, oh my God, c'est quasiment déjà trop tard, puis tu la voyons donc.
T'sais. Ah oui, c'est de l'éducation. C'est, ça se passe aussi dans notre système d'éducation aussi, qui a été...
Exactement.
On peut en parler longtemps, mais le système d'éducation, il a été pas mal fait pour qu'on soit des bons consommateurs, etc. T'sais, fait qu'il y a comme un changement aussi de paradigme au niveau de l'éducation qui serait pas pire aussi de faire là, pour le futur, là, clairement.
Exactement, là. Puis c'est pour ça que, tu sais, des personnes comme toi puis moi, qu'on est aussi sur les réseaux sociaux, puis qu'on parle de notre philosophie de vie, de notre manière de voir les choses, de cette mentalité qui est différente, bien, c'est comme ça, je pense aussi, que tranquillement, pas vite, on va faire notre petit bout de chemin dans les esprits des gens, puis qu'on va les amener justement à voir les choses d'un angle différent.
Clairement. Il faut faire un petit pas à la fois, une personne à la fois qui change de mindset, ça l'influence tout son cercle autour, fait qu'on fait un changement, c'est sûr.
Exact. Ah, bien, Marielle, merci infiniment. Puis, je suis tellement contente qu'on ait pu un peu démystifier justement cette notion du vide qui est vue comme, tu sais, côté négatif. Et que justement, la méditation aussi, c'est beaucoup plus, c'est pas d'essayer de créer le vide dans sa tête, mais c'est plus d'essayer de créer de l'espace, puis de pas porter, dans le fond, attention aux choses qui n'ont pas d'importance ou qui peuvent être négatives dans notre esprit.
Exactement. Tu as très bien résumé. Ça paraît que tu es une élève à moi, je pense.
C'est ça, hein, je suis une élève, même si je ne suis, si suis pas si assidue au quotidien. Mais j'avoue que je m'imprègne, je vois tout le temps tes messages et tout, et ils me parlent beaucoup. Donc, même si en ce moment, dans ma période de vie, en ce moment, des choses vont très vite, mais je me rends compte que justement, le fait d'avoir été guidée par toi au départ, puis d'avoir compris dès le début que justement, méditer, ça ne voulait pas forcément dire s'asseoir, faire le vide et tout, que j'avais cette fausse perception, eh bien, ça m'a beaucoup aidée parce que je me rends compte que des moments méditatifs dans mes journées, j'en ai beaucoup. Puis que c'est juste des fois des petits moments où je peux être en auto puis me dire « Ah, il fait donc bien beau, le ciel est donc bien beau » puis que c'est juste mais que je suis juste en contemplation puis que j'apprécie mon moment puis que je me dis « Je suis donc bien chanceuse ». Pour moi, ça, c'est un moment méditatif que j'ai passé dans ma journée.
Mais oui.
Des moments comme ça, j'en ai plein puis que c'est ça qui me nourrit aussi beaucoup. C'est pas justement de me dire « Ah, ben non, je me suis pas assise ce matin 15 minutes comme j'avais prévu à mon horaire, puis de mettre de la musique, puis de ci, ça, ça. T'sais, non, moi, je me rends compte que ma manière de faire mes petits moments de méditation, c'est plus des petits moments comme ça, ou quand je pars à vélo, ou que justement, je me retrouve sur le bord de l'eau. C'est des petits moments, tout d'un coup, où je déconnecte, où je décroche.
Tu connectes, en fait.
C'est ça. Où je décroche de ce qui se passe, mais où je connecte avec le moment présent, avec ce petit moment qui est,
mais tellement,
qui est beau, puis où je respire, puis où je pense, OK, je suis là aujourd'hui, puis c'est le fun, puis c'est ça, puis c'est correct. Puis
je pense, mais oui!
C'est vraiment juste ça, ces petits moments-là. Donc oui, des fois, je me dis, je ne suis pas si assidue, mais quand j'y repense, des fois, je me dis, ouais, non,
mais c'est ça. C'est ça que j'allais dire tantôt. Je te disais, tu sais, c'est pas parce que tu ne fais pas de méditation formelle dans une pratique vraiment décidée que tu n'en fais pas de façon informelle, avec de la pleine conscience, vraiment, tu sais, prendre conscience de l'instant présent. J'allais te chialer en disant, je te vois le faire, là. Tu sais, quand tu postes des belles choses sur les réseaux sociaux en disant, j'ai profité, j'ai vraiment connecté. C'est ça, en fait, la méditation, c'est d'être pleinement présent en conscience. Puis, tu n'es pas obligé d'être assis ou d'écouter une méditation guidée pour le faire. Tu sais, des fois, c'est juste vraiment, c'est ça, tu es connecté à tes ressentis puis à ce que tu ressens dans toi pendant le moment. Tu es en train de faire une méditation de pleine conscience. Ouais.
Exactement. Donc, vous voyez, finalement, la méditation, c'est pas si difficile que ça. Merci beaucoup, Marielle, d'avoir apporté aussi ton point de vue, ta vision. Et pour les personnes qui voudraient te contacter, il va y avoir toutes les coordonnées justement à la fin du podcast, là, que s'ils veulent te contacter pour justement s'initier éventuellement à la méditation avec toi. Je le recommande fortement. En plus, c'est une super belle communauté sur les réseaux sociaux. C'est du beau monde. C'est des beaux moments qu'on passe avec toi. Donc, c'est ça. Si vous voulez contacter Marielle, ça va être avec plaisir. Vous allez avoir ses coordonnées à la fin du podcast. Et sur ce, Marielle, merci infiniment.
Je souhaite merci
une bonne journée et puis j'espère à bientôt.
J'espère aussi. Bye bye.
Bye, merci.
C'est chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisot est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisot vont rendre ta vie plus facile. Marisot, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste. Ouh!